Vous êtes sur Radio Orient, il est 17h, le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, le président déchu Bachar al-Assad condamné à la peine de mort par contumace par un tribunal en Syrie, son frère Maher et plusieurs autres ex-responsables écopent de la même peine. Le Liban devient le premier pays du Moyen-Orient à abolir la peine de mort, une décision historique saluée par les autorités et les défenseurs des droits humains. La réclusion à perpétuité remplace désormais la peine capitale. La chaleur repart à l'assaut de la France. 43 départements sont en vigilance orange ce mardi. Ils seront 78 demain. Un cinquième épisode caniculaire depuis le début de l'été. Nous y reviendrons dans cette édition. Bonjour. Un tribunal syrien a condamné ce mardi le président déchu Bachar al-Assad à la peine de mort par contumace pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de la guerre civile déclenchée en 2011. Le dictateur déchu a été condamné par contumace car il vit aujourd'hui à Moscou, en Russie, après s'être enfui avec une poignée de proches alors que les forces dirigées par les islamistes se rapprochaient de Damas. Alors, quelle est la portée de cette décision, les précisions d'Inès Gilles?
Oui Nadia, cette décision, elle n'est pas vraiment étonnante, mais c'est une condamnation retentissante qui pose le dernier clou sur la tombe de l'ère du clan Assad qui a régné sans partage pendant plus d'un demi-siècle sur la Syrie. Cela fait partie des premiers jugements à l'encontre des membres de l'ancien pouvoir et la scène restera certainement dans les mémoires. Devant un tribunal de Damas ce mardi, le juge Fakhr al-Din al-Aryan a reconnu Bachar al-Assad coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dont les chefs d'assassinat avec préméditation, meurtre intentionnel de plusieurs personnes et d'enfants de moins de 15 ans, torture ayant entraîné la mort et privation de liberté. Il est donc condamné à mort, a ajouté le juge. Les crimes dont Bachar al-Assad, surnommé, est accusé, ont eu lieu pendant la guerre civile syrienne déclenchée par la répression sanglante de manifestations pro-démocratie en 2011. Plus d'un demi-million de personnes ont été tuées et des millions d'autres déplacées. Des dizaines de milliers de Syriens ont disparu, dont beaucoup victimes des exactions généralisées dans les geôles du pouvoir. Bachar al-Assad n'est pas le seul à être visé par une condamnation. Le tribunal a également condamné à mort plusieurs anciens responsables militaires, dont le frère de Bachar al-Assad, Maher, qui dirigeait la funeste 4e division d'élite de l'armée. Il y a aussi l'ancien ministre de la Défense, Fahad al-Freij, et Louyal al-Ali qui dirigeait les services de renseignement militaire dans la province de Daraa, berceau du soulèvement en 2011. Mais ils sont condamnés à mort par contumace car tous ont fui à l'étranger durant la chute du régime. On le sait, Bachar al-Assad est à Moscou, protégé par la Russie de Vladimir Poutine. L'exécution de la sentence a donc peu de chances d'avoir lieu. Toutefois, un accusé était présent au tribunal, Atef Najib, également condamné à mort pour crime contre l'humanité alors qu'il était chef de la sécurité politique à Daraa. Ces condamnations permettent pour le nouveau régime de montrer qu'il répond activement aux demandes du peuple syrien en quête de justice après des années de terreur. Néanmoins, certains intellectuels syriens affirment que la justice transitionnelle ne devrait pas seulement viser l'ancien régime, mais aussi les groupes d'opposition qui ont commis des crimes pendant la guerre.
Merci Inès pour ces précisions. La Syrie toujours qui condamne la décision de la Colombie de reconnaître l'annexion par Israël du plateau du Golan, dénonçant une violation du droit international et des résolutions de l'ONU. Jusqu'à présent, seuls les États-Unis avaient officiellement reconnu la souveraineté israélienne sur ce territoire occupé depuis 1967. Le Liban devient le premier pays du Moyen-Orient à abolir la peine de mort. Le Parlement a adopté une loi remplaçant cette peine par la réclusion à perpétuité pour les crimes concernés, une décision saluée comme historique par le ministre ministre de la Justice et les organisations de défense des droits humains. Le président libanais Joseph Aoun affirme que les négociations avec Israël progressent et restent préférables aux conséquences d'une guerre dévastatrice. L'ambassadeur américain à Beyrouth se dit lui aussi optimiste, évoquant des avancées à chaque cycle de discussion. Ces déclarations interviennent pourtant après une dernière session à Rome, jugée décevante, le Liban menaçant de suspendre les pourparlers si les démolitions israéliennes dans le sud du pays se poursuivent. En attendant, l'armée israélienne multiplie ses attaques au quotidien. Une double frappe menée ce mardi a fait 2 blessés à Nabatieh et endommagé une ambulance venue secourir les victimes. Le ministère libanais de la Santé dénonce une nouvelle atteinte aux équipes de secours alors que les tensions persistent malgré l'accord cadre conclu entre Beyrouth et Israël. En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne a détruit la maison d'un Palestinien tué lors des affrontements meurtriers de juillet dans le village de Tel, près de Naplouse. Israël présente ses démolitions comme une mesure dissuasive, tandis que les Palestiniens et plusieurs ONG les dénoncent comme une punition collective. Dans ce contexte de tensions persistantes en Cisjordanie, direction le village chrétien de Taïbé, la dernière localité chrétienne de Palestine. La multiplication des avant-postes et des colonies sauvages s'accompagne d'une recrudescence des violences et des provocations de colons qui se sont emparés de terres palestiniennes aux abords du village. Le père Bachar Bassiel, prêtre de l'église latine de Taïbé, redoute que les familles soient contraintes d'abandonner leurs terres. Face à l'expansion de la colonisation et à ce qu'il décrit comme l'impunité des forces d'occupation, il appelle la communauté internationale à agir.
Il y a plus que de 8 voitures à brûler par le colon. Ils sont brûlés la voiture, ils sont brûlés le terrain vide, et toujours il y a quelque chose, quelques attaques. Et il a occupé beaucoup de terrain à l'ouest de Taïbé, il a occupé beaucoup de terrain à l'est de Taïbé. Nous faisons face presque chaque jour à des incursions de colons et à des attaques contre les propriétés privées, à la destruction de la terre agricole, à la fermeture de routes, à restriction de circulation et à pression constante sur la population. Et encore, il y a le checkpoint, encore il y a le barrière militaire, et encore il y a quelques restrictions militaires par l'Israélien et par le colon, et encore par les armées israéliennes. Quand il y a quelques attaques par le colon, et nous appelons directement le police d'Israël. Mais ils ne répondent pas, ils ne viennent pas, il vient après 1h30 ou 2h. S'il ne peut pas arrêter les attaques de colons, il faut faire quelque chose de spécial pour Taïbé. Nous nous sommes attaqués par le colon parce que nous sommes palestiniens, c'est pas seulement nous sommes musulmans ou nous sommes chrétiens. Et ça veut dire qu'ils veulent du respect par les communautés internationales. Donc ça veut dire que c'est pas seulement nous sommes chrétiens ou nous sommes musulmans, c'est pourquoi ils nous attaquent. La base de la vivre en dignité est quelque chose de vivre, quelque chose de vivre ensemble, de vivre en paix, de vivre en dignité, d'aller, de retourner, de faire la vie quotidienne comme le monde entier, comme tout le peuple qui vivra dans l'état de le monde. Nous sommes palestiniens, chrétiens ou musulmans, ou juifs, ou samaritains, ou durs, nous voulons de continuer notre vie à cette terre.
Le père Bachar Bassiel, prêtre dans l'église latine de Taïbé, est l'invité de Inès Gilles dans Grand Angle ce soir à partir de 18h. En mer Rouge, un navire a été touché près du détroit de Bab el-Mandeb au large du Yémen. L'attaque a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés parmi l'équipage. Les autorités yéménites attribuent cette attaque aux rebelles Houthis dans un contexte de reprise des hostilités et de tensions croissantes sur cette voie maritime stratégique. En Égypte, au moins 18 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées dans le renversement d'un pick-up transportant des ouvriers agricoles dans le gouvernorat d'Ismaïliyeh. L'accident a également fait une trentaine de de blessés selon les autorités sanitaires. Au Soudan, les forces de soutien rapide affirment avoir pris la ville frontalière de Geysan à la frontière avec l'Éthiopie, tandis que l'armée soudanaise assure leur avoir infligé de lourdes pertes. Khartoum accuse une nouvelle fois les paramilitaires de lancer leur offensive depuis le territoire éthiopien, une accusation démentie par Addis Abeba. Le Niger a réceptionné 4 hélicoptères militaires et des équipements de défense offerts par l'Algérie dans le cadre du renforcement de leur coopération sécuritaire. Ce soutien intervient alors que les deux pays resserrent leurs liens, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Et puis en Colombie, le bilan du violent séisme de magnitude 7,4 s'alourdit encore. Au moins 181 personnes ont été tuées et plus de 1300 blessées. Les secours poursuivent leur recherche sous les décombres à la recherche de survivants. Plus de 165 bâtiments ont été détruits et l'état d'urgence a été décrété. Une mobilisation internationale est en cours pour soutenir les opérations de secours. La France entre dans un nouveau pic de chaleur. La canicule gagne du terrain. 43 départements sont placés en vigilance orange. Aujourd'hui, 78 le seront dès demain. Elle s'étendra progressivement aux deux tiers du pays avant un pic attendu jeudi avec des températures pouvant atteindre localement les 40 degrés. Un cinquième épisode caniculaire depuis le début de l'été, Inès Gilles.
Et oui Nadia, la chaleur continue de s'installer sur la France. Déjà bien présente dans le centre et le sud-est, la canicule s'étend désormais à une large partie de l'ouest du pays et gagnera les deux tiers du territoire dès mercredi selon Météo France. Alors prudence, vous l'avez dit Nadia, 78 départements seront placés en vigilance orange du Finistère à l'Hérault. Ils sont 67 mercredi avec l'extension de l'alerte au sud-ouest ainsi qu'à Paris avec sa petite couronne. Les températures devraient atteindre jusqu'à 35 degrés dans l'ouest, jusqu'à 39 degrés sur le pourtour méditerranéen avant un pic attendu au milieu de la semaine. Cet épisode s'inscrit dans la continuité de la vague de chaleur qui touche le sud-est depuis le 28 juillet. Il ne s'agit donc pas, selon Météo France, d'une nouvelle canicule, mais d'un phénomène qui s'intensifie et s'étend à une plus grande partie du pays. Depuis le début de l'été, la France a déjà connu plusieurs épisodes de forte chaleur, dont un particulièrement précoce à la fin du mois de mai. Les conséquences se font déjà sentir car près de 70% du territoire est soumis à des restrictions d'usage de l'eau, alors que 94% des réserves souterraines affichent des niveaux en baisse. Les risques d'incendie restent également très élevés, même si la situation s'améliore sur plusieurs fronts. Depuis le début de l'été, plus de 120 000 hectares ont été ravagés par les flammes en France. Cette succession d'épisodes de chaleur intervient alors que le mois de juillet 2026 a été l'un des plus chauds jamais enregistrés dans plusieurs régions du monde, selon les données de l'Observatoire européen Copernicus.
Merci Inès pour toutes ces précisions. On termine par du sport. Le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en avril et mai 2027. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football. Le Ghana organisera la CAN U20 tandis que l'Égypte recevra la CAN U23 qualificative pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Et puis les Lions de l'Atlas poursuivent leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations féminines, victorieuses de l'Afrique du Sud 2-1. Elles affronteront le Cameroun en demi-finale mercredi au stade Moulay El Hassan de Rabat. Les Lyonnes indomptables se sont qualifiées après leur succès 1-0 face au Nigeria. Et puis l'Algérie affrontera pour sa part le Malawi en demi-finale demain après sa victoire 2-1 face à la Côte d'Ivoire en quart de finale. Le Malawi, révélation du tournoi, s'est lui aussi qualifié pour la première fois pour le dernier carré, décrochant un passage. Au passage, son billet pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil. C'est la fin de cette édition. Merci à Mohamed Yamout pour la mise en onde. Prochaine édition en langue arabe à 17h30, ce sera avec Roger Khoury. Je vous retrouve à 18h pour l'essentiel de l'actualité.